C'est toujours plaisir de voir de nouvelles terres. Voilà. Donc, nous poursuivons toujours notre parcours Kephas, qui a lieu tous les 15 jours, en partir de ce catéchisme de Saint Pie X. Et donc, cette année, nous commentons la première partie, ce qu'il faut croire, donc le credo, le symbole des apôtres, le symbole de Nicée-Constantinople. Donc, nous commentons. Dans tout catéchisme traditionnel, il y a trois parties, hein, ce qu'il faut croire pour aller au ciel, donc c'est raison le credo, ce qu'il faut faire, les commandements, et puis comment le faire avec la grâce de Dieu qui m'est donnée par les sacrements. Cette année, on voit ce qu'il faut croire. Après avoir donc longuement parlé de ce qu'est la foi et de ce qu'est Dieu, de ce qu'on peut dire de Dieu par la raison, après avoir vu, si je puis dire, le mystère de la Sainte Trinité, et enfin après avoir vu la question de la création avec la permission du mal, nous allons voir la création en particulier, d'abord concernant les anges, puis après concernant les hommes. Voilà sur quoi portera le catéchisme de ce soir. Donc nous sommes toujours dans notre catéchisme pour adultes, le grand catéchisme, et à la page 98, pour ceux qui auraient mon édition, et je crois que c'est la même pagination que l'édition verte que vous avez. Voilà. Donc ça concerne les anges. Quelles sont donc les créatures les plus nobles que Dieu ait créées ? Les plus nobles créatures créées par Dieu sont les anges. Alors la noblesse hein, d'une chose, c'est sa bonté. Et ce qui distingue une chose noble d'une autre chose bonne, c'est que les autres choses bonnes qui ne sont pas nobles, elles seront souvent de l'ordre du délectable ou de l'utile. Elles sont rapportées à quelque chose d'autre. Une chose est noble pour ce qu'elle est en elle-même. On parle d'un bois noble. Et le chêne, ça a une valeur en soi, indépendamment du meuble, à quoi ça peut servir. Là où le pain, peut-être, a beaucoup moins de valeur et sera beaucoup plus réduit à son utilité. Donc la noblesse désigne eh bien, une bonté intrinsèque, une bonté en elle-même d'un être. La créature donc là, la plus noble, c'est les anges. Alors on peut déjà le comprendre dans la mesure où si Dieu est, comme on l'avait dit, le souverain bien et la cause de tout être, eh bien, ce sont les êtres qui ressemblent le plus à Dieu qui sont les meilleurs, qui sont donc les plus nobles. Or, ceux qui ressemblent le plus à Dieu, ce sont les anges, ces purs esprits. On le dira, si l'homme est noble, si l'homme est au sommet de la création visible, c'est en raison de son esprit. Mais l'homme, contrairement à l'ange, a un corps, ce qui lui fait appartenir au règne animal. Aristote dit que l'homme est un animal rationnel. Donc l'ange qui n'a pas de corps, mais qui est pur esprit, eh bien, ressemble encore plus à Dieu que les autres créatures, et de l'ordre visible, et par conséquent sont les plus nobles, les meilleurs. La question de l'existence des anges, c'est quelque chose qui a fait couler beaucoup d'encre entre thomistes, à savoir est-ce qu'on peut démontrer par la raison l'existence des anges ? L'existence de Dieu, oui, c'était une évidence. Une évidence médiate, hein, car il faut un raisonnement qui part du fait de notre existence, par exemple, pour remonter à une cause incausée. Donc je ne dis pas que c'est évident en ce sens qu'il suffit de regarder l'univers pour dire que Dieu existe. Il faut un raisonnement, mais on arrive à la certitude absolue que Dieu existe à partir des effets que nous voyons. Pour les anges, ça semble plus discutable, dans la mesure où les anges n'exercent pas une causalité immédiatement perceptible. Ceci étant, mais c'est ce qu'ils font dire à certains thomistes, on peut quand même remarquer qu'à partir du moment où on sait que Dieu, qui est Dieu, n'est pas matériel, car le propre de Dieu, c'est d'être immuable, si Dieu est Dieu, il ne lui manque rien, donc il ne peut rien acquérir qu'il n'est pas, donc il ne peut changer, s'il ne peut changer, donc immuable, si donc immuable, il est nécessairement spirituel, dans la mesure où la matière est sujet au changement. Si Dieu est Dieu, il est donc immuable. S'il est immuable, il n'est donc pas composé de matière, il est spirituel. Donc on comprend alors qu'il conviendrait qu'entre la création visible matérielle et le créateur qui est invisible et qui est purement spirituel, il y ait, si je puis dire, une espèce d'être qui, sans être Dieu, ne soit pas du monde visible et matériel. La création ayant pour motif l'amour que Dieu a de sa propre bonté, visant à la communiquer à l'extérieur de lui-même, Dieu crée à raison de l'amour qu'il a pour lui-même, pas à raison de l'amour des créatures qui n'existent pas encore. Eh bien, on comprend que le motif de la création, qui est le resplendissement de la gloire de Dieu à l'extérieur de lui-même, si je puis dire, implique que dans les êtres qu'il crée, il en crée qui lui ressemblent en étant purement et uniquement spirituel. De là à dire qu'on peut démontrer absolument l'existence des anges, je laisse le débat ouvert, parce que justement, il n'est pas tranchant entre thomistes. Mais on voit bien que ce n'est pas sugrenu, cette idée que des anges ou que des entités spirituelles existent, et on le retrouve dans toutes les grandes religions païennes. Le fait, en tout cas, il est absolument certain, puisqu'il nous est révélé. L'existence des anges nous est révélée, et comme je le faisais remarquer au groupe Saint-Antoine jeudi dernier, il n'y a je ne sais pas combien de centaines de mentions dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament de la présence des anges, et spécialement de la présence des démons. Donc c'est assez clair. Et lorsque nous croyons en Dieu le Père, créateur du ciel et de la terre, le ciel dont il s'agit, c'est bien la création invisible. Hein, c'est pas le ciel qu'on voit où il y a les avions. Quand est-ce qu'ont été créés les anges ? Ab initio, au commencement, mais ça ne veut pas dire grand-chose, puisque le commencement commence avec l'existence d'autres êtres que Dieu. Puisqu'en Dieu, il n'y a pas de changement. Donc si en Dieu, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de temps, puisque le temps, c'est la mesure du changement. Enfin, si tout reste figé, il n'y a pas d'avant, il n'y a pas d'après. Si on dit que Dieu est éternel, c'est qu'il est atempus, il est hors du temps. Quand on dit éternel, c'est pas simplement dire il est sempiternel. Être sempiternel, ça veut dire j'ai toujours existé, j'existe et j'existerai toujours. Ça aurait pu être possible. De fait, ça l'est pas, on a été créé à un moment donné. Mais on aurait pu être créé de toute éternité. Il n'empêche qu'il y aurait eu un temps pour nous, un passé, un présent et un futur. Et c'est ce qui va se passer pour nous dans le futur, puisqu'il n'y aura pas de fin pour nous, notre âme ne pourra jamais se détruire. Et pourtant, on est dans un temps. Donc quand je dis que Dieu est éternel, je ne dis pas simplement qu'il a toujours été, qu'il est et qu'il sera toujours. Je le dis, mais je dis plus que ça. Je dis qu'il est hors du temps. Si je dis qu'il est hors du temps, ça veut dire que n'ayant pas de changement en lui-même, puisqu'il est parfait, je viens de le dire juste avant, eh bien il n'y a pas d'avant et d'après en Dieu. Donc il n'y a pas de temps en Dieu. Dieu est dans un éternel présent, et c'est pour ça que d'un seul regard, il voit aussi bien Adam et Ève dans le jardin que l'Apocalypse, la fin du monde. En un seul et même regard. Donc quand je dis les anges sont créés ab initio, ça veut dire qu'ils sont créés avant la création visible. C'est juste ça que ça veut dire. Mais n'allez pas me demander le laps de temps qu'il y a eu entre la création de l'ange et puis la création de l'homme. J'en sais rien, ou du monde. Mais nécessairement avant la création visible, pourquoi ? Parce que la chute originelle implique la présence du tentateur. Le tentateur n'est rien d'autre qu'un esprit malin, devenu malin. Donc ça implique qu'il exista avant. Alors maintenant, quels sont ces anges ? Quelle est la nature de ces anges ? Parce que remarquez déjà que le mot ange, il est ambivalent. Parce que le mot ange, il peut signifier trois choses. Il peut signifier les anges en général. Donc je parle des purs esprits, comme on va le dire. Donc ça inclut les bons et les mauvais. Ça peut signifier uniquement les bons anges. D'où le surnom tout mignon, tout plein, à mon ange. Et puis ça peut désigner la dernière hiérarchie angélique. On verra, il y a plusieurs... la tradition nous donne trois cœurs d'anges avec trois hiérarchies dans chacun de ces cœurs. Et au plus bas, vous avez les anges, qui sont les messagers. Jean-Baptiste est comparé à être un ange, justement, de par son rôle de porte-voix. Vous avez remarqué la semaine dernière dans l'Évangile. Voici que j'envoie un ange préparer. Donc là, c'est les plus petits. C'est les minus. Dans l'ordre invisible, ces anges-là. C'est ceux qui sont les derniers dans la hiérarchie céleste. Oui, ange, ça signifie trois réalités. Soit les purs esprits en général, soit les bons anges, soit la dernière hiérarchie angélique. Lucifer et tout ça, ils sont... Ah, on verra ça après. Alors là, on est sur les anges en général. On va voir le péché de l'ange. Donc qu'est-ce que les anges? Leur nature. Les anges sont des créatures intelligentes et purement spirituelles. Intelligentes et purement spirituelles. Ce qui est intéressant à retenir, c'est le purement spirituel. En un ange, il n'y a aucune composition de matière. On parle de forme séparée. Alors il faut revenir à ce que la matière, la forme, à partir de constats qu'Aristote fait du changement matériel. On observe qu'il y a des êtres qui sont à la fois ce qu'ils sont, tout en n'étant plus tout à fait ce qu'ils sont. Si on prend une photo de ce cher monsieur de la Chapelle lorsqu'il avait 3 ans, et
c'est pour te
qu'on, la compare, qu'on la compare avec maintenant, je veux dire, c'est pas le même. C'est pas le même Stéphane. Je n'ai pas connu comme ça. Donc ce n'est pas le même. Et pourtant, c'est bien le même. Ce qui implique qu'il y ait un principe d'immutabilité qui fait qu'il est essentiellement ce qu'il est depuis qu'il existe, son âme, la forme, ce par quoi il est ce qu'il est, et puis qu'il y a un principe d'indétermination qui fait qu'il a pu devenir autre chose et qu'il deviendra encore autre chose lorsqu'il sera en fauteuil roulant avec son ambulateur. Oh. Et c'est la matière. Donc la matière, ne redisez pas matière-corps, non. La matière et la forme, ce sont deux principes qu'on ne voit pas, mais qui expliquent la possibilité du changement. Ce qui dit changement dit un sujet permanent qui reste, hein, qui demeure, et puis dit quelque chose qui change. Voilà. Donc quand je dis que les anges ont des formes séparées, ben, ça veut dire que oui, on retient le fait qu'ils aient qu'une forme, c'est-à-dire sans aucune capacité de changement matériel, parce qu'ils ne sont pas matériels. Donc la seule capacité de changement qu'ils ont, c'est uniquement des actions d'ordre spirituel, qu'on parlera d'opérations, parce qu'elles ne sortent pas du sujet, elles restent justement intérieures à elles-mêmes. Opérations de connaissance, opérations d'amour. Donc il n'y a que ça qui peut les changer, les connoter, s'il n'y a pas de corps. Donc il n'y a pas de lieu, il n'y a pas de position, il n'y a pas d'avoir, il n'y a que des opérations qui peuvent les faire rentrer en relation de connaissance ou d'amour. Voilà les accidents qui vont affecter la substance angélique. Qu'on appelle par rapport à nous forme séparée pour dire séparée de la matière. Comme on connaît plus immédiatement l'humain ou en tout cas les substances matérielles que les substances invisibles, on se réfère à elles pour essayer de comprendre ce qu'est l'ange. Toujours est-il que quand on dit créature purement spirituelle, c'est sans aucune composition de matière, une forme séparée, donc un acte. Mais on dira pas un acte pur. Il n'y a que Dieu qui est acte pur, parce que précisément, en l'ange, il y a une possibilité de changement, dans l'ordre de la connaissance et de l'amour. Et c'est ce qui fait qu'elles restent des créatures, non seulement parce qu'elles demeurent constamment en dépendance de Dieu pour exister, elles ne sont pas leur propre existence, elles ne se définissent pas comme étant l'être, elles reçoivent continuellement l'être, et c'est en ce sens qu'on dit que Dieu est présent en enfer, en ce sens que si les démons continuent d'exister, c'est parce que Dieu continue à les maintenir dans l'être, non pas en tant qu'ils sont mauvais, mais en tant qu'ils existent. Et d'autre part, ces anges ne sont pas Dieu parce que, étant des créatures, eh bien, leur agir ne s'identifie pas à leur être. La preuve, c'est qu'elles changent en restant ce qu'elles sont, tout en étant modifiées. Signe de leur imperfection. Alors que Dieu se comprend et s'aime en un seul acte. Cet acte, c'est lui-même. Voilà pourquoi il ne suffit pas de dire qu'une créature est purement spirituelle pour dire qu'elle est divine. Et ce qui fait qu'on dit qu'elle est créature, non pas créatrice, créateur, hein, contrairement aux idoles païennes ou aux divinités. On peut envisager un ordre d'être spirituel qui ne soit pas un créateur, mais qui soit bien une créature, c'est ça que je veux dire. Le propre de la créature étant de se définir comme en dépendance dans l'ordre de l'être, et comme étant composé en l'occurrence d'être et d'agir, pour ce qui est de l'ange. Non, pas de matière, parce qu'on a dit qu'il n'y avait pas de... Mais il y a une capacité de devenir, qui n'est pas matérielle, mais qui est de l'ordre de la connaissance ou de la volonté. De l'amour. Vous aviez une question.
Oui. Est-ce que les anges, ils connaissent nos pensées?
Ah, est-ce que les anges connaissent nos pensées? On va le voir un petit peu après, rapidement, mais les anges, on va le redire, les anges n'ont pas accès immédiatement à notre intelligence et à notre volonté. Donc non, les anges, en soi, ne peuvent pas savoir ce que nous pensons.
Mais si on a un ange gardien.
Voilà.
On va voir le mode d'action de l'ange. Voilà. Mais il n'y a que celui qui est la source de l'être qui peut, du dedans de nous-mêmes, soit suggérer des idées, soit les connaître, soit mouvoir la volonté de l'intérieur. L'ange, il a une capacitation extérieure, qui pourra s'attaquer directement à l'âme, mais en passant par les facultés sensibles, et donc toujours par la médiation du corps, jamais directement par l'intelligence et la volonté. Il va assiéger, il peut assiéger, hein, l'intelligence et la volonté, vraiment entraver, hein, et ça on le voit dans le cas des possessions. Mais il ne peut pas déterminer la volonté à faire un acte. Il peut l'inciter, il peut l'incliner, il peut l'empêcher de mettre à exécution ce qu'elle voudrait faire. Mais l'amour, ou l'acte d'amour ou de haine, il ne peut pas l'obliger. Parce qu'il est, justement, il n'est pas créateur. Donc il n'a pas ce pouvoir sur l'être spirituel de notre âme. Et d'autre part, pour ce qui est de l'ordre de l'amour, comme il n'est pas absolument la bonté absolue, il ne peut pas nous contraindre à l'aimer. Parce que même le plus bel ange, le meilleur des anges, je peux avoir un motif de ne pas l'aimer. Parce que sous un rapport, il a des qualités que d'autres ont qu'il n'a pas. Il n'est pas infini. Il n'y a que Dieu vu comme tel que je ne peux pas ne pas aimer. Autrement dit, on le dira, au ciel, il n'y a pas de liberté d'aimer Dieu. En ce sens que, sans être contraint, devant la bonté même, il n'y a rien qui peut me faire vouloir autre chose que de continuer à avoir cette bonté même. C'est ça qui fait que, voilà, au ciel, ceux qui y sont, ils sont sûrs de ne jamais pouvoir ne plus y être. Et ceux qui prétendent avoir le ciel et qui sont revenus, ils ne l'ont jamais vu, précisément. Parce que quand on y est, précisément, on ne peut plus ne pas l'avoir. Voilà. Et on le comprend aussi, parce que si on savait qu'on pouvait le perdre, alors notre bonheur ne serait pas complet. Notre bonheur ne serait pas complet. Enfin voilà, revenons sur le fait que le mode d'action de l'ange, il sera toujours par l'intermédiaire de notre corps pour agir sur les puissances sensibles de notre âme, mais il n'y a pas un accès immédiat à l'intelligence et à la volonté, donc il ne peut pas directement savoir ce qu'on pense. Après, comme il est très intelligent, il peut conjecturer à partir de nos émotions, de notre état de santé, de fatigue, nos réactions, nos paroles, ce qui sort de nous. Il peut, là pour le coup, le connaître. Et il peut conjecturer notre état intérieur. Donc, il peut déduire l'état de grâce de quelqu'un, probablement assez facilement, il peut prévoir des événements assez précisément, il peut... Voilà. Donc, les anges sont des créatures intelligentes, purement spirituelles, ça veut dire sans aucune composition de matière. Intelligentes, ça sous-entend non seulement qu'elles sont intelligentes, mais qu'elles sont volontaires. Car qui dit intelligence dit capacité de saisie de l'être, qui dit capacité de saisie de l'être, de compréhension du vrai, de saisie du vrai, dit possibilité de le désirer comme bien. Parce que l'objet de la volonté, c'est l'être. En tant qu'il est connu par l'intelligence comme désirable, comme bon. Donc, il faut entendre doué d'intelligence et de volonté, et pas simplement d'intelligence. Mais d'ailleurs, il ne l'exclut pas, au contraire. Donc en fait, l'ange se ramène, la nature angélique se ramène à nos deux facultés les plus hautes, qui fait que nous sommes des humains et pas des animaux, à savoir l'intelligence et la volonté. Mais on verra, le mode de connaissance angélique n'est pas le même que le nôtre, parce que le nôtre, il est intimement lié à notre corps. Si je vous prive des cinq sens, il n'y a plus aucune nouvelle connaissance qui est possible. Et le mode discursif de l'intelligence humaine qui passe du jugement au raisonnement, pour arriver à une conclusion, est étranger à l'ange. Car on le dira, l'ange connaît par les idées qu'il a immédiatement de Dieu. Il faut dire ici que les anges, ne se distinguant pas par leur corps, puisqu'ils n'en ont pas, ils se distinguent en eux-mêmes. En eux-mêmes par leur plus ou moins grande capacité de connaissance. C'est ça qui va distinguer les anges entre eux. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire que chaque ange est sa propre espèce. Nous, autour de la table, nous avons tous la même nature, la nature humaine. Il n'y en a pas un qui veut dire « moi, je suis plus humain que toi ». On est tous aussi humains les uns que les autres. Ce qui fait que nous ne sommes pourtant pas tous la même personne, c'est que précisément, eh bien, nous avons un corps qui nous individualise, qui nous particularise, qui permet la réalisation diversifiée d'une même nature. Au point qu'après notre mort, notre âme restera notre âme parce qu'elle garde un lien avec tel corps. Après notre mort, notre âme reste notre âme et pas celle d'un autre, parce qu'elle elle garde un lien singulier avec tel corps, quand bien même elle ne l'anime plus. Donc c'est vraiment le corps qui individualise la matière, qui est le principe de notre corporité, qui individualise eh bien, la nature humaine. Pour les anges, comme il n'y a pas de matière, chaque ange est en lui-même son espèce. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'amicaléitude est réalisée uniquement par Saint-Michel. La gabriéléitude est réalisée uniquement par Gabriel. Alors que nous, l'humanité, ben, elle est réalisée par vous. Il y a plusieurs exemplaires. Donc à chaque ange, il y a une espèce propre. Et en ce sens, on voit bien que le classement reçu dans la tradition des neuf cœurs angéliques dont je vous parlais, donc, vous avez les anges, les archanges au-dessus, alors je ne sais jamais dans l'ordre, les puissances, les trônes, les dominations, les vertus, les chérubins, les séraphins, et puis j'en ai oublié une dernière, entre-temps c'était les principautés, et bien ces neuf cœurs angéliques, bon, bah, c'est très joli et c'est très beau parce que ça manifeste justement que même dans le ciel angélique, il n'y a pas une démocratie et une absolue égalité entre les anges, parce que précisément ils sont là, comme on va le dire, pour manifester la gloire de Dieu, et cette gloire implique une inégalité entre les anges. C'est pour reprendre l'image de Sainte Thérèse, l'intérêt de la pâquerette dans le champ de lys. Mais donc c'est très beau de matérialiser un peu cette hiérarchie angélique, mais il faut pas être dupe. C'est-à-dire que dans chacun de ces ordres, de chacun de ces cœurs, il y a eh bien, autant d'anges qu'il y a d'espèces. Et il n'y a pas un ange qui est égal à un autre. Voyez. Et donc ce qui va fonder, d'un point de vue, j'allais dire, naturel, la hiérarchie de chaque ange, les uns vis-à-vis des autres, c'est leur capacité de saisir une maximum de réalité en une seule idée. Plus un ange est parfait, plus en une seule idée il saisit différentes réalités. Moins un ange est parfait, moins il est intelligent, moins il est performant, plus il a des idées distinctes des différentes choses. On le comprend, Dieu, en une seule idée qu'il a de lui-même, il comprend et connaît tout ce qui existe et tout ce qui est possible. Donc ceux qui sont les plus intelligents, ceux qui ressemblent le plus à Dieu, c'est ceux qui ont le moins d'idées, embrassent un maximum de connaissances. Voilà ce qui, au niveau naturel, fonde la hiérarchie angélique. Au niveau surnaturel, il peut y avoir un inversement, puisque au niveau surnaturel, c'est le mérite. Le mérite, il est indexé sur la grâce qui est donnée, la coopération de l'ange à la grâce. Donc là, ça ne se recoupe pas tout à fait. Ce qui explique que la Sainte Vierge soit placée par grâce et par mérite, au-dessus de tous les anges. Alors que par nature, elle est inférieure au plus petit des anges. Parce que par nature, elle est humaine. Et être humaine, elle est, pour la raison qu'on a dit, beaucoup moins noble que la créature angélique. Donc tout ça pour dire que ce monde des anges, vous voyez, il est vraiment très différent d'une autre. Et il est très, très fourni. Il est très, très fourni, puisque si Dieu crée les êtres à raison de la manifestation de sa propre bonté, de l'amour qu'il a de sa propre bonté qu'il veut refléter par la création, on comprend alors que c'est les créatures qui lui ressemblent le plus, bah, qu'il a produit en plus grand nombre. Et c'est la raison pour laquelle les pères de l'Église tiennent, mais c'est pas un dogme, hein, mais qu'il y a des milliards d'anges. Bon, ça tombe bien, puisque la tradition, et la grande tradition, tient que chacun a son ange gardien. Alors il y a plusieurs débats, comme je le disais, au groupe Saint-Antoine, de savoir si l'ange gardien, une fois qu'il a fini son travail avec l'un, peut être réassigné à un autre. Bon, c'est pas la question. Mais ce qui est sûr, c'est que si, de toute façon, chacun a un ange gardien en ce moment, et qu'elle signe pas celui d'un autre, eh bien, ça implique effectivement qu'il y a des milliards d'anges. Et probablement, il y en a des milliards de milliards, et beaucoup plus que d'anges gardiens, parce que les anges gardiens appartiennent, a priori, à la dernière catégorie des anges, c'est-à-dire les plus petits. Et plus bas. Alors, chaque ange réalise une espèce, donc il n'y a pas d'égalité entre les anges, mais les anges gardiens dont il s'agit, c'est ceux qui appartiennent à la dernière hiérarchie angélique. Plus vous montez dans l'échelle des anges, plus les anges sont au service immédiat de la gloire de Dieu et de la contemplation. Alors après, il ne faut pas se l'imaginer, parce qu'un ange peut agir dans deux endroits simultanément tout en contemplant la face de Dieu. Quand l'ange Gabriel vient à la Sainte Vierge, il ne quitte pas le ciel pour autant. Donc, vous voyez, attention, il ne faut pas imaginer, il faut concevoir avec son intelligence. Et pas mettre des images sur des réalités qui sont invisibles. Mais on comprend quand même bien le principe, à savoir que plus vous vous rapprochez de la perfection divine, plus la raison de votre existence est immédiatement liée à la vie même de Dieu. Et donc, ce sont bien les anges les plus bas qui s'occupent des affaires des hommes, autrement dit. Voilà. Pour le nombre...
L'apparition à la Sainte Vierge.
Oui.
Est-ce qu'elle a vu... comment elle l'a perçue, quoi ?
Alors, il y a plusieurs possibilités. Quand un ange apparaît, soit il produit dans les sens internes de la personne qui apparaît, à qui il apparaît, l'impression d'une image, mais qui n'existe pas. Soit il va se servir du sommeil pour produire un songe, et il va mettre en scène des paroles, des figures et des formes, mais qui n'existent pas non plus réellement. Soit il va effectivement, avec permission divine, donner une apparence extérieure que tout le monde peut voir, et c'est probablement ça qui s'est passé, mais c'est pas tranché, avec l'ange Gabriel. Donc une impression extérieure, un peu comme un hologramme, si vous voulez, d'une personne réellement consistante, avec une voix qui sort de cette personne perceptible, pour pouvoir justement la situer et lui parler. Si on les représente avec des anges et s'ils semblent apparaître avec des anges, avec des ailes, pardon, c'est bien justement pour nous dire leur spiritualité, leur vélocité. J'ai souvent ça aux enfants de catéchisme, fermer les yeux, penser au bord de la mer, imaginez, ouvrez les yeux, vous n'y êtes pas, parce que votre corps est là, donc votre âme n'y est pas. Bon, même si parfois on a bien des enfants dont on a l'impression qu'ils sont avec les anges. Hein. J'en ai encore vu le cas cet après-midi. Mais tout ça pour dire qu'il y a le corps qui fait que là où est notre corps, où est notre âme, et donc il ne suffit pas de penser à quelque chose pour y aller. L'ange, oui. Si Dieu ne l'empêche pas, il peut aller d'un endroit à un autre au gré de la pensée. Sans passer par les lieux intermédiaires. Et c'est ça que rappellent les ailes. Donc, des anges par milliard, beaucoup plus nombreux que les hommes, et le consentement des théologiens, le consensus des théologiens, c'est de dire qu'il y a une majorité d'anges, on va le dire après hein, avec la question des démons, mais il y a une majorité d'anges qui restaient bons. Hein, qui restaient bons. On le comprend assez à partir du moment où ils ont une nature qui est assez parfaite, et donc qui n'a pas de fragilité telle qu'elle puisse, sans le vouloir, défaillir. Il est logique que du coup... eh bien, il arrivait à son but plus certainement que les autres créatures. Et c'est ce qui explique d'ailleurs qu'il n'y a pas de possibilité de rédemption pour les mauvais anges. C'est qu'en soi, ce n'est pas lié à une erreur, une faiblesse intérieure ou à un attrait désordonné. C'est clairement lié à un choix froid et tout à fait lucide. Voilà. Mais on va en reparler juste après, donc je ne m'y étends pas plus.
Comment on peut changer d'un lieu à un autre si on n'a pas de corps ?
Ah ben justement, la notion de lieu, vous voyez, elle est très analogique. Non mais c'est comme quand on parle de l'enfer, du ciel et du purgatoire, vous savez, comment on dit, c'est très analogique. Mais c'est pour dire qu'en soi, si l'ange veut agir d'un endroit à un autre, eh bien, il peut se manifester d'un endroit à un autre sans passer par les lieux intermédiaires, puisque précisément, il n'a pas de corps, donc il n'a pas de quantité au contact d'une surface qu'il devrait traverser. Voilà ce qu'on veut dire. Mais c'est analogique, vous avez tout à fait raison. Un ange, j'allais dire, est partout et nulle part. Il n'est pas partout comme Dieu, parce qu'il n'y a que Dieu qui est partout, en ce sens qu'il n'y a que Dieu qui crée en tout ce qui existe et immédiatement présent à l'ensemble de ce qui existe. Donc en ce sens-là, l'ange n'est pas présent partout. Mais quand je dis qu'il est partout nulle part, ça veut dire qu'il n'est dans aucun lieu en soi. Et pourtant, il existe vraiment. Mais analogiquement, on va le situer par rapport à Dieu, justement. Et quand il est en présence de la vision de Dieu, on dira qu'il est au ciel. Lorsqu'il est en état d'aversion vis-à-vis de Dieu, on dira qu'il est en enfer. Et puis après, on dira qu'il est dans un lieu selon ses manifestations. Démoniaque ou miraculeuse ou prodigieuse pour les bons anges. Dans quel but Dieu a créé les anges ? Dieu a créé les anges pour être honorés et servis par eux et pour les rendre éternellement heureux. Alors, ça c'est à méditer, ça. Ça c'est à méditer, parce que si l'ange qui est bien au-dessus de l'homme est créé pour honorer et servir Dieu, on ne voit pas comment l'homme pourrait, entre guillemets, échapper à cette destinée. Noble destinée. Mais c'est la première question, hein, je vous rappelle, hein, du catéchisme pour enfants, du catéchisme impilis, pourquoi l'homme est créé ? Pour le connaître, pour connaître, aimer et servir Dieu. Hein ? C'est la grandeur de l'homme, qui, en ce sens, partage la condition angélique qui est ordonnée à, justement, cet honneur, ce service de Dieu. Et c'est ça qui fait la noblesse de la vocation angélique et humaine. Donc Dieu a créé les anges pour être honorés et servis par eux. On pourrait dire, c'est narcissique hein, de vouloir créer des êtres pour soi. Et bien non, c'est pas narcissique si on n'imagine pas non plus et qu'on fait pas de la psychologie de comptoir et qu'on comprend qu'à partir du moment où on est Dieu, on a besoin de rien d'autre que de soi-même. Donc Dieu crée pas par besoin. Et Dieu ne fait pas des êtres qui créent des objets. Mais il n'a pas le choix, si je puis dire, de vouloir que ces créatures le connaissent, ces créatures rationnelles le connaissent et l'aiment, s'il veut qu'il soit heureux. Parce qu'il n'y a pas d'autre bien que Dieu lui-même qui peut combler une soif infinie d'être heureux. Et cette soif infinie être heureux, elle est comblée pour un être justement rationnel, elle est comblée par la contemplation du bien infini, il n'y en a qu'un, c'est Dieu, par la faculté la plus haute, il n'y en a qu'une, c'est l'intelligence. C'est ce que dit déjà Aristote, hein, pour essayer de situer le bonheur de l'homme, il dit c'est ce bonheur se situe pour l'homme dans l'opération la plus haute, de la faculté la plus haute concernant l'objet le plus haut. L'opération de la faculté la plus haute. La faculté la plus haute pour l'homme, c'est l'intelligence. Parce qu'on ne peut pas aimer ce qu'on ne connaît pas. Donc c'est l'intelligence avant la volonté. Donc faculté la plus haute. L'opération la plus haute, c'est directement la connaissance, la saisie. C'est pas le raisonnement, parce que le raisonnement, il est dédié à avoir une conclusion nouvelle. Donc à chaque fois, ce qu'on veut, c'est la vérité. Donc c'est la saisie de l'être. L'opération la plus haute. De l'être le plus haut. L'être le plus haut, c'est l'être qui est cause de tout être. Donc à fortiori pour l'ange. Sa destinée ne peut être que là. Donc il n'y a pas de narcissisme à créer des êtres dont le bonheur ne peut se réaliser qu'en soi. Qu'en soi, parce qu'encore une fois, Dieu ne crée pas par besoin, Dieu est infiniment heureux par lui-même, et précisément, là où il est bon, c'est que, alors qu'il n'en a pas besoin, il veut manifester sa bonté et faire participer, par la grâce, on le redira, à son propre bonheur, des anges et des hommes. Petit bémol, parce que j'ai dit quelque chose qui peut laisser à penser une erreur, voire une hérésie. Dieu aurait pu créer les anges ou les hommes sans les appeler à aller au ciel. La preuve, c'est qu'Aristote déduit que l'homme est fait pour Dieu, mais il ne parle pas de la vision de Dieu. Il a bien conscience qu'il y a un décalage infini entre la créature et le créateur. Il n'en demeure pas moins que le but, c'est Dieu. Alors, par la connaissance au moins naturelle et la compréhension de l'univers par les causes les plus hautes. Mais la contemplation face à face de la Trinité, rendue possible à l'ange et à l'homme, ne l'est que par la grâce et par libre initiative de Dieu. Et il n'y aurait pas eu d'injustice ou de cruauté de Dieu à créer l'homme et l'ange pour lui, mais sans que ça soit dans le partage même du bonheur même de Dieu. Dieu serait resté quand même le but, dans la mesure où il l'aurait connu naturellement comme cause de ce qui existe, et il l'aurait aimé comme cause de leur propre existence. Mais c'est là où on voit que Dieu est absolument pas narcissique, c'est que il élève cette finalité naturelle de tout être intelligent, de vouloir connaître Dieu comme la cause de tous les êtres, il élève ce désir au désir de son propre bonheur et à la possibilité d'être heureux de son propre bonheur par la grâce qui les divinise et qui les rend aptes à poser un acte qui leur mérite ce bonheur de Dieu. Et donc là on voit bien la générosité de Dieu qui garde son bonheur, qui ne garde pas son bonheur intime pour lui. Vous voyez, donc on peut vraiment pas faire le procès à Dieu d'être narcissique, mais on peut pas faire le procès à Dieu d'être Dieu. Et si Dieu est Dieu, il ne peut pas faire autrement que le bonheur des créatures rationnelles soit en lui. Que ce soit par la simple connaissance qu'il est le créateur, ou que ce soit par la vision grâce à sa grâce. Ça, c'est sûr. Dans quel but Dieu donc honoré et servi par eux? Alors le service de Dieu, il est à prendre... Donc honoré, c'est reconnaître pour ce qu'il est en lui-même. Service et subordonner son agir à sa volonté qui est sainte, de vouloir sa propre gloire, en s'en servant précisément comme manifestation de sa propre bonté. Les anges manifestent la propre bonté, on le voit notamment par rapport aux hommes. La bonté de Dieu est rendue plus manifeste par ses nombreux ambassadeurs que Dieu envoie aux hommes par la médiation des anges. En ce sens, ils servent Dieu, et pas comme des esclaves soumis qui n'auraient pas le choix. Mais comme des êtres aimant leur maître, ou plutôt même leur père, et voulant manifester la bonté de leur père, eh bien, aux hommes vers qui ils sont envoyés, pour notion de service. Pour les rendre éternellement heureux, parce que, vous voyez, cet honneur de Dieu qu'ils rendent et pour lequel ils sont créés coïncide avec leur bonheur. Et c'est là où je vous disais en sermon il y a 15 jours, il n'y a pas d'incompatibilité à dire tout ce que je fais, je le fais pour le ciel. Et en disant tout ce que je fais, je le fais pour la gloire de Dieu. Il y en a qui disent oui, mais c'est intéressé, tu fais pour le ciel, sauf que tu ne le ferais pas, c'était pas pour le ciel, donc c'est pour ton bonheur, donc tu instrumentalises Dieu, tu en fais une boîte de smarties. Mais non. Parce que précisément, voulant la gloire de Dieu, la manifestation de sa bonté à travers ma propre âme, en acceptant la grâce qu'il me donne, cela coïncide avec mon bonheur qu'il m'a préparé. Parce que voulant faire la volonté de Dieu, je veux mon salut que Dieu veut. Donc ma volonté concorde tout à fait à ce que veut Dieu pour moi. Mais c'est pas Dieu qui qui sera l'objet de ma volonté capricieuse, c'est moi qui sera le sujet de la participation à son propre bonheur en m'associant à ce qui fait son bonheur, sa propre connaissance et le propre amour qu'il a de lui-même. En ce sens, le bonheur de l'homme ou de l'ange est la conséquence concomitante de sa recherche de la gloire de Dieu et de sa manifestation par l'honneur, l'adoration, l'action de grâce qu'il lui rend. Il faut bien sûr m'arrêter s'il y a des choses que vous ne comprenez pas dans ce que je dis ou si je parle trop vite ou s'il y a des termes qui vous échappent. Je vais ralentir. Mais le temps passe très vite. Et nous avons une raclette paroissiale qui nous attend. Pour les rendre éternellement heureux, bon, éternellement, là, c'est à prendre au sens de sempiternel, hein, un bonheur sans fin. On parle pour les anges d'éviternité. Il y a un temps angélique, mais qui n'a pas la même mesure que notre propre temps, parce que ce n'est pas le soleil, ni la lune, ni la terre. Donc c'est un temps qui... On parle d'éviternité pour dire que c'est un temps qui a pour mesure la pensée de l'ange. Il y a un avant et après dans l'ange, non pas dans la contemplation qu'il a de Dieu qui est immuable, donc ce n'est pas là qu'il y a un changement. Mais un ange, il peut rentrer en communication avec tel ange, puis avec tel ange, avec telle âme, puis avec tel saint. Il peut faire tel acte d'amour par rapport à tel autre ange qui lui a rendu un service. Enfin, non. Il peut illuminer un ange inférieur, il peut recevoir l'animation d'un ange supérieur. Donc il vient, il n'est pas inerte, l'ange.
Comment vous avez
tout ça? Ça, on le déduit de la nature angélique, pour le coup. Si l'ange est, n'est pas Dieu, il est composé, il a une capacité de devenir. S'il a une capacité de devenir, bah, il y a un avant et un après entre ce qu'il était et ce qu'il est devenu, donc il y a un temps. Ce temps n'est pas notre temps, puisqu'il n'est pas dans le monde matériel, et donc ça ne peut pas être indexé sur le soleil et la lune. Ça, je peux vous le démontrer, il n'y a pas besoin d'être grand théologien pour ça. En revanche, l'existence des anges, je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit au début, parce que j'en ai parlé. Ouais. L'existence des anges, elle est deux fois, et elle est on peut la pressentir par la raison, avec un argument que j'ai donné. Est-ce qu'on peut la démontrer au sens très fort? C'est débattu chez les thomistes. Je n'en suis pas convaincu, mais voilà, ce n'est pas la question. Voilà. Quelle forme et quelle figure ont les anges? Les anges n'ont ni figure ni forme sensible parce qu'ils sont de purs esprits, créés par Dieu pour subsister sans devoir être unis à un corps. Les anges n'ont ni figure ni forme. Ben, figure-forme, ça renvoie à la quantité, ça renvoie au lieu, ça renvoie à la qualité de la matérielle. Ça n'a rien à voir avec les anges, puisque les anges n'ont pas de corps. Les anges n'ont pas de corps. C'est pour ça qu'on parle de forme séparée, on parle pas de silhouette. Hein. Et c'est vrai qu'ils parlent de forme sensible. Ils parlent de forme sensible pour dire la silhouette, justement. La silhouette, elle est liée à un corps. Voilà. Donc ils n'ont pas de figure, pas de forme, parce qu'ils n'ont pas de corps, ils sont des purs esprits. Et donc si on les représente avec des ailes, c'est pour la raison que j'ai dit, pour dire leur agilité d'esprit, leur capacité d'agir d'un lieu à l'autre sans passer par les lieux intermédiaires, mais c'est surtout pas pour dire qu'ils ont un corps. Créé par Dieu pour subsister, ça veut dire pour demeurer, même pour être, sans devoir être uni à un corps. C'est la grande différence avec l'âme, qui, même séparée après la mort, se doit d'être unie à un corps, et est une substance incomplète. L'âme séparée du corps est une substance, parce qu'elle a l'être en soi, elle n'existe pas par un autre, elle existe par Dieu, comme tout être, mais elle a en soi une autonomie dans l'être. Donc c'est bien une substance, contrairement à la couleur, à la taille, qui est vraiment dépendante d'autre chose pour exister que d'elle-même. La substance, elle est autonome dans l'être. Donc l'âme, elle demeure après la mort, petite substance, c'est vrai. Mais c'est une substance incomplète. C'est une substance incomplète parce qu'il lui appartient d'animer un corps.
Mais du coup, c'est dire qu'elle est malheureuse, l'âme, alors.
Ah, ça veut dire qu'elle est dans... Elle n'est pas malheureuse, mais elle est dans un état de violence. Et ça veut dire très concrètement que sans l'action de Dieu, en tout cas pour les âmes qui sont au ciel et qui n'ont pas encore récupéré leur corps, elles ne pourraient pas connaître de nouvelles choses. Et elles ne pourraient pas connaître de nouvelles choses. Oui, oui. Donc elles auraient une vie qui est très amputée, oui, sans l'intervention de Dieu pour pallier à cette absence de corps. Donc oui, c'est un état de violence.
Et donc elles ne seront pleinement heureuses que quand elles auront récupéré leur corps glorieux à la fin des temps.
Oui, tout à fait. Mais ce corps glorieux de la fin des temps, qui convient tout à fait tant par rapport à la justice, qui veut qu'on rétribue les corps en tant qu'ils ont été cause de mauvaises ou de bonnes actions, il faut qu'ils soient récompensés ou punis, cette résurrection des corps coïncide effectivement avec cette nature humaine qui fait que l'âme n'est pas dans son état... n'est pas l'être humain complet, et donc elle se doit être punie à un corps, mais il ne demeure pas moins que cette béatitude accordée au corps, cette gloriosité du corps de l'élu, apporte une joie secondaire, une joie accidentelle. C'est-à-dire que ça ne change rien par rapport à l'essentiel du bonheur du ciel, qui est la vision de Dieu face à face, que l'âme séparée a déjà avant même d'avoir un corps. Donc la gloire du corps n'est que le réjaillissement du bonheur de l'âme sur le corps retrouvé, avec un corps sans défaut, qui ne se fatigue pas, qui n'a pas besoin de manger, même s'il peut manger, on croit, le Christ ressuscité, qui n'a jamais de rides, qui n'a pas besoin de dormir.
Comment il n'y a jamais
voilà.
De rides.
C'est extra bien. Oh, tout de suite. Bon. Voilà.
Allons permettre.
Tout de suite, elles sont susceptibles. Hein. Alors, parce qu'ils sont de purs esprits créés pour subsister sans devoir... C'est ça que ça veut dire. Hein. C'est leur état normal. Sans devoir tenir un corps. Donc, en fait, c'est l'inverse. C'est que quand elles ont un corps, c'est... quand ces anges ont un corps, c'est accidentel. Déjà, c'est pas leur corps. C'est une apparence de corps extérieur. Hein. Et c'est accidentel parce que c'est pas ça qui les définit. C'est uniquement pour pouvoir agir conformément à ce que leur demande Dieu, pour pouvoir atteindre la réalité matérielle, parce qu'effectivement, on le redira, le mode d'action des anges sur l'homme pour faire passer un message, s'ils n'utilisent pas une voix ou un corps, c'est très compliqué. Il leur reste le songe, ou il leur reste après, notamment pour les tentations, des suggestions via l'excitation des sens ou de l'imagination. Mais vous comprenez, le mode de communication est très restreint, parce que l'ange ne peut pas directement, encore une fois, nous donner des idées, contrairement à Dieu, qui lui peut nous donner directement des idées, des inspirations, notamment au ciel, il peut nous en donner, et puis des ici-bas, il peut nous en donner. Mais l'ange, lui, ne peut pas directement. Il n'a pas cet accès à l'intelligence immédiatement. Donc on comprend que ça lui est accidentel, parce que c'est uniquement en tant qu'il a une mission à accomplir vis-à-vis de nous qu'il peut prendre un corps. Mais ce n'est pas le sien, d'une part, et ça ne lui change rien pour lui. C'est uniquement pour sa mission. Pour sa mission s'adressant à des êtres qui ont un corps. Faut comprendre, et c'est ça qui fait qu'il y a, bon, on le reverra après, mais c'est ça qui fait qu'il y a un pouvoir, hein, il y a un pouvoir, hein, des purs esprits angéliques sur la matière, parce que n'ayant pas en soi un corps, ils ont un pouvoir sur tous les corps en soi. C'est ça qui fait que on peut avoir des prodiges diaboliques, c'est ça qu'on peut faire, qu'on peut avoir des vexations, qu'on peut avoir des effets spectaculaires. Qu'est-ce qui fait que qu'est-ce qui fait que vous pouvez bouger votre corps, dans le fond ? Ce qui fait que vous pouvez bouger votre corps, c'est-à-dire c'est le système nerveux qui est relié au cerveau, qui anime les muscles. Mais qu'est-ce qui fait que vous passez du « je veux prendre cette montre et je la prends » Qu'est-ce qui se passe entre mon moi et mon cerveau qui a ce schéma qu'il transmet au nerf qui actionne les muscles ?
La volonté.
Oui, mais la volonté, il y a quoi entre la volonté et le cerveau ? Ben, il n'y a rien. Précisément parce que l'âme est la forme substantielle du corps, elle anime ce corps-là, et donc elle a une capacité d'agir sur la matière immédiate, mais la matière de notre propre corps, pas sur celui des autres. Je ne peux pas directement agir sur votre corps. Mais les anges, comme ils n'ont pas deux corps, moi si je veux agir sur votre corps, il faut que j'utilise mon corps. Parce que la capacité que j'ai d'action immédiate, c'est sur mon corps, et par mon corps, je peux agir sur le corps des autres. Mais comme l'ange, lui, eh bien, il n'a pas un corps en particulier. Sa capacité d'action sur le monde matériel ne se limite pas, n'est pas contractée à un corps. Donc elle peut agir sur tout corps, du moment que Dieu ne l'empêche pas. Et donc ça veut dire que par mouvement local et la puissance de la pensée, l'ange, bon ou mauvais, peut faire des choses qui s'apparentent à des miracles qu'on appelle prodiges, parce qu'en réalité, il n'y a pas que Dieu qui peut faire ce qu'ils font, puisque précisément tous les purs esprits peuvent le faire. Après, Dieu ne permet pas forcément. Ça veut dire quoi concrètement ? Un ange peut tout à fait déplacer les particules d'un tronc d'arbre pour que le tronc d'arbre il s'écroule au moment où vous passez. Et ce n'est pas un miracle. Un ange peut tout à fait en soi déplacer les cellules de l'aorte et créer une hémorragie foudroyante. Un ange peut tout à fait faire dégénérer des cellules et créer ou plutôt susciter un cancer.
Dans l'autre sens aussi.
Un ange en soi peut tuer quelqu'un, en fait, tout simplement.
Et dans l'autre sens aussi.
Pas immédiatement comme Dieu en disant « je le tue », mais en agissant sur les cellules vitales, qui, des organes vitaux qui vont créer un dysfonctionnement.
Oui, mais ça, c'est les anges qui ont...
Non, qui ont en soi, c'est la capacité de tous les esprits. Après, quand c'est pour le bien, bah, c'est que soit Dieu permet la mauvaise action pour le bien, soit il demande à un ange positivement de châtier un tel, on le voit dans l'Ancien Testament, pour le bien de son âme. Et donc on voit des bons anges envoyés par Dieu pour châtier. Donc le mal, la raison de mal quand un ange fait quelque chose de désagréable, c'est lorsque c'est par haine. Alors que quand il fait quelque chose de désagréable sur ordre de Dieu, c'est par amour de l'âme que Dieu permet, ou demande plutôt tel châtiment corporel. Donc la raison de mal, elle est dans le salut ou pas salut, dans la conversion ou pas la conversion. Elle n'est pas dans le désagrément suscité par cet ange qui vient souffleter le pauvre le pauvre Job, hein, Job, le combat qu'il mène. Bon. Alors, il y a le diable, mais il y a aussi, me semble, un bon ange qui l'éprouve. Enfin voilà, mais toujours est-il que, en soi, les purs esprits ont un pouvoir sur tout corps. Après, c'est toujours soumis à la permission divine, c'est évident. Pourquoi ? Parce que il appartient à l'esprit d'agir sur la matière. Et c'est le cas pour nous-mêmes. La preuve, c'est qu'il n'y a pas d'intermédiaire entre notre cerveau et notre volonté, c'est immédiat.
Il y a quand même des exemples d'anges sur la volonté de Dieu qui viennent châtier, comme vous dites.
Ah bah oui. L'ange exterminateur qui va tuer, qui va faire tuer tous les nouveau-nés. Non, dont les linteaux des portes n'ont pas été immaculés du sang de l'agneau.
Ah oui.
Tout à fait. On a des bons anges qui sont envoyés par Dieu pour commettre des méfaits matériels à raison d'un bien spirituel. Tout à fait. Et je... Oui, tout à fait.
C'est les rois dans les actes des apôtres.
Oui, d'accord.
Alors, ça voudrait dire aussi, par exemple, que les anges interviennent sur nos émotions.
Tout à fait.
Et donc, parmi certains caractères, plutôt colériques, plutôt mélancoliques, pourraient ou sont... À l'origine de l'intervention des anges.
Alors non, on peut pas, à mon avis, on ne peut pas. Comment dire ? Il y a une consistance de la nature humaine qui fait que les caractéristiques stables d'un individu n'est pas liée à une action constante d'ange bon ou mauvais.
D'accord.
En revanche, la connaissance qu'un ange bon ou mauvais a de la complexion d'un être et de son caractère et de son tempérament peut l'inciter à faire telle ou telle bonne suggestion pour le cas du bon ange ou telle tentation pour le cas du mauvais ange. L'ange qui sait que un tel est très colérique, il lui sera pas difficile de l'irriter un tout petit peu au moment où c'est la panique parce que il est en retard. Ça sera plus facile pour lui de le mettre en colère que s'il avait affaire à un flegmatique ou voilà. Et donc il peut se servir des connaissances qu'il a pour aiguiser les tentations et susciter éventuellement un relent d'exaspération par une décharge hormonale ou électrique qui fait que, effectivement, la personne pète un câble alors qu'il n'y avait rien quoi, à l'origine. C'était disproportionné. Ça, c'est tout à fait possible. D'accord. C'est ce qui explique, par exemple, les enfants qui sont insupportables la veille de leur première communion. C'est un classique. Ou l'après-midi de leur première communion. Il n'y a pas de raison visible, apparente. Ils ont bien dormi, bien mangé, tout le monde était gentil, et ils font une méga colère. Alors, ça veut dire que l'enfant n'est pas responsable de méga colère. Mais ça veut dire que probablement, comme l'enfant, a été sous influence d'esprits malins qui ont profité de tel ou tel événement pour décupler l'effet que ça a eu, que ça n'aurait jamais eu autrement.
C'est plutôt rassurant. Voilà.
Oui, ben dans ce cas-là, on peut dire que voilà, son enfant n'est pas si mauvais que ça. Voilà. Pourquoi donc représentons les anges sous des formes sensibles ? Non, mais ce que je vous dis sur le problème de matière, c'est pas pour paniquer, parce que c'est toujours soumis à la permission divine. Hein. Attention, l'ange ne peut pas agir sur nos corps indépendamment de la permission de Dieu, autrement il nous tuerait tous. Hein. Donc attention, Dieu a le contrôle. Hein. Pas de panique. Mais ce qui est sûr, c'est que s'il cherche, on le verra pour le démon, à nous nuire. Il veut nous nuire dans le fond, dans notre âme, mais comme il ne peut pas accéder à notre âme directement, il va tout faire pour inciter ma volonté à consentir au péché, par la médiation d'une action sur mon corps et sur ma sensibilité. Et donc il a effectivement un pouvoir que Dieu permet, qu'il utilise sans arriver forcément jusqu'à la possession, mais qui lui permette d'agir sur mon imagination, sur ma mémoire, sur ma sensibilité. On le voit, je ne sais pas, par exemple... vous avez un bel événement familial et puis il se trouve que dans cet événement familial vous avez une des personnes avec qui vous avez eu un gros clash il y a 10 ans, vous aviez eu beaucoup de mal à pardonner mais c'était passé et puis vraiment vous n'étiez pas du tout dans l'optique de vous mettre dessus et il se trouve que sans cesse vous avez cette image de ce qui vous a fait qui vous revient mais en boucle alors que franchement vous avez fait le deuil, c'était passé, c'était même pardonné, c'était acté. Bon, ah oui, ça c'est typiquement une action diabolique.
Ça marche avec les belles-mères ?
Comment ? Je ne sais pas. Mais c'est typiquement une action diabolique, ça.
Avec les
marraines.
Comment ça marche ?
Oui. Il y a des refus de pardonner obstinés qui ne sont pas rationnels. Et qui sont parfois vraiment liés à cette sensibilité exacerbée par le démon.
Alors, concrètement, par exemple, si vous... qu'est-ce qu'il ferait concrètement pour exacerber quelqu'un ?
Les passions,
il pense tout le temps, ça revient en boucle.
Il peut agir que sur le corps. Donc
oui, mais il peut agir. Vous savez qu'on peut susciter des images et des hallucinations en laboratoire. Hein. L'image, elle a un substrat neurologique. Donc on peut tout à fait agir. Les médicaments qui produisent des hallucinations n'agissent pas directement sur votre intelligence. Donc, à fortiori, est-ce que je peux faire un médicament ? Je peux le faire. Des hallucinations, des démences, des obsessions. Voilà. Parfois des vexations, c'est-à-dire que votre corps va avoir mal quelque part. Mm-hmm. Objectivement, c'est des choses qui peuvent arriver. Vous allez avoir une douleur. Mm-hmm. Ou vous avez l'impression que vous allez être guéri parce que vous n'aurez plus la douleur. En fait, la douleur va se... Ça, c'est le cas notamment des fumeux guérisseurs. Elle va se transporter d'un endroit à l'autre. Et vous allez croire être guéri, en fait, pas du tout. Mais cette apparence de guérison vous aura fait faire un pacte implicite avec le démon qui lui donne un pouvoir après plus grand sur votre corps. Et ainsi de suite. Bon. Mais là, je ne ferai pas un cours sur les possessions, mais on pourrait. Et sur les modes d'action diaboliques. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ultimement, il veut toujours, même dans le cas de la possession, ce qui l'intéresse, c'est pour ça qu'il y a si peu de possessions, même s'il y en a réellement, ce qui l'intéresse, c'est le consentement de ma volonté à faire le mal. Et même le possédé, il n'a pas pris sur sa volonté. Hein. Il ne peut pas obliger le possédé à faire un péché. Il peut l'empêcher d'aller dans une église, il peut l'empêcher d'accéder au confessionnal, il peut l'entraver extérieurement, ça c'est sûr. Mais il ne peut pas l'empêcher de faire un acte d'amour de Dieu au dernier moment. Il aura plus de mal, c'est sûr, mais il ne peut pas l'empêcher. Et donc pourquoi il y a si peu de possession ? Parce que quand il y a une possession, c'est clair que c'est le démon qui est là. Donc quelqu'un qui n'est pas tordu, il va prendre les moyens pour s'en débarrasser. En revanche, quand c'est beaucoup plus insinueux, que c'est votre sensibilité qui est exacerbée, que c'est une série de trucs qui ne vont pas dans votre vie, qui vous poussent à penser que Dieu est méchant, c'est beaucoup plus sournois et vous n'allez pas penser que c'est le démon. Donc vous allez marcher dans sa couine. Ce qu'il ne veut pas, c'est être démasqué. Vous voulez tentation sous apparence de bien, d'où... Voilà. Je reviens au catéchisme parce que le temps passe, on n'a fait que 4 questions en une heure, alors il faut vraiment qu'on avance. Pourquoi donc représente-t-on les anges sous les formes sensibles ? On les représente sous les formes sensibles pour aider notre imagination à les concevoir. Ben oui, comme on est des pauvres êtres dont la connaissance même intellectuelle est dépendante des images que nous avons, eh bien, il n'est plus facile de fixer ce que nous savons des anges par une image, avec toujours le danger de dire plus de bêtises que de vérités lorsque justement on imagine des réalités invisibles. Si vous imaginez Dieu avec une grande barbe, y a quelque chose de vrai, c'est la sagesse que ça indique, mais le reste, tout est faux, quoi. Parce que c'est ainsi qu'ils ont apparu, souvent aux hommes, comme nous le lisons dans Sainte Écriture. Et c'est là où c'est quand même, plus que la Trinité, c'est quand même légitime de représenter les anges, parce que quand même Dieu lui-même a voulu qu'on puisse les percevoir avec des formes sensibles, et donc représentables. Pour ça, Saint-Michel. Les anges furent-ils tous fidèles à Dieu ? Alors là, ça fait un gros morceau. Donc non, les anges ne furent pas tous fidèles à Dieu. Remarquez que fidèle, vous voyez, fidèles, la confiance. Il y a déjà une indication sur la nature du péché de l'ange. Non, les anges ne furent-ils pas tous fidèles à Dieu, mais beaucoup parmi eux prétendirent, par orgueil, lui être égaux et être indépendants de lui. Et à cause de ce péché, ils furent exclus pour toujours du paradis et condamnés à l'enfer. Il y a beaucoup de choses à dire. La première, c'est qu'il faut bien comprendre que l'ange n'est pas créé au ciel. Contrairement à ce qu'indique la miche de pain, c'est peut-être une des seules erreurs, pour ne pas dire hérésie, dans ce catéchisme qui est merveilleux par ailleurs, c'est qu'ils vous disent que les anges sont créés au ciel puisqu'ils sont chassés après. Les mauvais sont chassés. Non, les anges ne sont pas créés au ciel, c'est pour ça qu'ils ont pu pécher. C'est impossible de pécher au ciel, et pour la raison que je vous ai dit. Et puis ce ne serait pas le ciel si on pouvait le perdre, parce qu'on aurait toujours la crainte du coup de le perdre, donc on ne serait pas complètement heureux. Donc les anges sont créés, certes bons, mais pas au ciel. Ils sont créés en état de grâce, dans le régime de la foi, donc de la connaissance de l'intimité de Dieu, non pas par évidence claire que donne la vision du ciel, mais par la révélation que Dieu leur fait de sa propre intimité, de son propre mystère, et de ce qu'il faut faire pour le rejoindre. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut dire. La deuxième chose, c'est qu'il faut remarquer qu'il n'y a pas de tentateur. Puisque tout ce que Dieu fait, il le fait, on dit souvent, l'agir suit l'être. Hein. Dieu est bon, donc ce qu'il fait est bon. Donc toutes les œuvres de Dieu sont bonnes. Donc Dieu ne crée pas le démon. Dieu ne crée que des bons anges, qui ne sont pas au ciel, certes, mais qui sont bons. Ces anges, ils vont devenir donc mauvais, puisqu'on va parler des démons. Donc ils deviennent mauvais par eux-mêmes, sans l'instigation d'un tentateur. puisqu'il n'y a pas de tentateur créé par Dieu. Autrement, ce serait un être mauvais, s'il avait été écrit comme tentateur. D'autre part, il n'y a pas de dualité dans l'être angélique qui pourrait être l'occasion d'une hésitation, soit dans l'ordre de la connaissance, soit dans l'ordre de l'amour. Il n'y a pas de corps. Donc pas de possibilité d'erreur sur le rapport de la connaissance, c'est-à-dire qu'ils ont une intelligence immédiate et certaine de ce qu'ils connaissent. Ils peuvent, à partir de ces idées que Dieu leur a infusées, faire des raisonnements eux aussi, conclure sur les d'autres choses qui leur étaient pas données immédiatement. Mais leur intelligence ne va pas être influencée par l'imagination, ne va pas être tributaire de perceptions fausses et de leurs sens, et n'a aucune cause d'erreur en tant que telle. Parce que toutes les idées que l'intelligence angélique a, elle les saisit pleinement. Donc il n'y a pas de, en ce sens, il n'y a pas de possibilité de sophisme pour l'ange, il n'y a pas de possibilité d'erreur liée au niveau de la perception sensible, voilà, il n'y a pas d'impression des images qui prennent le pas sur la raison, il n'y a pas de concupiscence dans l'ordre de l'amour, d'inclination désordonnée à des biens créés ou à des biens sensibles, puisqu'ils n'ont pas de sensibilité. Donc vous voyez, c'est pour bien comprendre que le péché de l'ange est un péché gravissime qui n'a aucune excuse. C'est ça que je veux dire. C'est pour ça qu'il n'y a pas de possibilité de rédemption et de rémission. Mais on pourrait dire, alors pourquoi ils ont péché? Parce que là, je suis en train de vous dire quasiment, du coup, il n'y a pas de possibilité de péché. Je dis. Alors c'est pas ce que je dis. Hein. Je dis, il n'y a aucune excuse à leur péché. Mais s'ils ont péché, c'est qu'il y avait une possibilité de péché. Alors d'où vient cette possibilité de péché? Elle vient, il y a deux causes, et je m'arrêterai là. Il y a deux causes. La première, c'est qu'elles sont des créatures, ces anges. Ces anges étant des créatures, elles ne sont pas leur propre but. N'étant pas leur propre but, elles peuvent ne pas l'atteindre. Il n'y a que Dieu qui est forcé de ne pas atteindre son, qui est forcé d'atteindre son but. Dieu ne peut pas vouloir autre chose que lui-même. C'est dans son être même que de se vouloir, de se connaître, de s'aimer lui-même. C'est son être même. Donc. Mais l'ange, lui, eh bien, il n'a pas son propre but en lui-même. La preuve, c'est qu'il désire un bien infini. Comme nous, hein, notre volonté n'est jamais rassasiée de tous les biens de la terre, parce qu'on en veut toujours plus, et on n'est jamais content. Tout le monde a une volonté spirituelle, on aspire à un bonheur infini. Personne ne dit, moi, j'ai mon quota de bonheur, je passe à autre chose. Non, on veut toujours être plus heureux. Hein. L'ange, donc, lui-même, sa propre contemplation de lui-même ou de son semblable, ange, ne lui suffit pas. Donc, en soi, il est fait pour autre chose que lui, il n'est pas son propre but.
Mais comme il voit Dieu.
Non, il n'est pas créé au ciel.
Ah oui, c'est vrai.
Attention, il est créé en état de grâce. Donc, il connaît. Il connaît Dieu comme créateur de façon immédiate par son intelligence beaucoup plus puissante que notre. Il n'a pas besoin de faire les preuves de l'existence de Dieu. Lui, il ne peut pas être athée, hein. Ça c'est sûr, il ne peut pas être athée. Mais il n'est pas pour autant dans la vision de Dieu. Parce que la connaissance qu'il a de la Trinité, la connaissance qu'il a de certains mystères, des mystères, il ne l'a que par révélation de Dieu, qui se surajoute à sa connaissance naturelle de lui-même et de ses semblables. Donc, première raison du péché de l'ange. Vous avez été influencé par la miche de pain, vous. Donc, première raison du péché de l'ange, raison naturelle, c'est que l'ange n'est pas son propre but parce que l'ange n'est pas Dieu et donc il n'a pas sa raison d'être en lui-même et son propre but. Deuxième raison du péché de l'ange, c'est que précisément, l'ange étant appelé à une destinée au-dessus de sa nature, par pure grâce, qui implique pour y répondre un acte de foi, eh bien, il peut ne pas le faire, car la foi présuppose la liberté. En ce sens que ce qui fait que je crois, c'est pas que mon intelligence est contrainte de dire oui, parce que précisément, elle ne voit pas ce qu'on croit. On va pas croire, c'est ce que dit le Christ saint Thomas. Bienheureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Si à partir du moment où tu vois, tu ne crois pas. À partir du moment où tu es au Canada, tu ne crois pas que le Canada existe. Tu le sais, et tu le sais par toi-même. Tu en as l'évidence. Tu le sais pas par confiance. Donc là où j'ai l'évidence, là où j'ai la vision, je n'ai pas la foi. Si je sais que Dieu existe par mon raisonnement et que mon raisonnement en est certain, je n'ai pas la foi en l'existence de Dieu. Vous comprenez? Donc tout ça pour dire que l'ange, étant appelé à une destinée qui le dépasse par la grâce de Dieu, il devait acquiescer à cette grâce par un acte de foi qui suppose la volonté de croire. Je crois parce que je veux croire. Ce qui fait que mon acte de foi est raisonnable, c'est que j'ai des motifs de croire. Et c'est tout l'œuvre de la politique de montrer la crédibilité de la vraie religion. C'est que non seulement il n'est pas raisonnable de croire, mais il est plus déraisonnable de ne pas croire que de croire. Mais des motifs de croire que sont les prophéties, les miracles manifestant que la seule religion voulue par Dieu, c'est l'Église catholique, à la croyance en Jésus, en son Église et en tout son message, il n'y a quand même un pas. Et ce pas se fait par ma volonté, acceptant la grâce, qui meut mon intelligence à adhérer à des choses qu'elle ne voit pas et qu'elle ne peut pas démontrer. Et bien ça, pour l'ange, c'est la même chose. Il a fallu que par la grâce, qu'il accepte de faire un acte de la volonté en croyant des choses qu'il ne voyait pas. Et par définition, il pouvait ne pas le vouloir, car il n'avait pas l'évidence. Alors qu'il ne pouvait pas dire « Dieu n'existe pas ». Ça, il ne pouvait pas. Ça, il ne pouvait pas parce qu'il avait l'évidence que Dieu existait, parce qu'il voyait en son être qu'il était dépendant continuellement de Dieu. Vous voyez, l'ange est transparent à lui-même. Et il se voit comme créature immédiatement. Nous, on déduit qu'on est créature, parce qu'on n'a pas toujours existé. Mais il y a une petite médiation. Mais le mystère de la Trinité, le mystère, on va le voir, quel est l'objet précis du péché de l'ange. Vous savez que pour beaucoup de pères de l'Église, l'objet précis du péché de l'ange, qu'est-ce qui fait qu'il n'a pas fait d'acte de foi ? C'est que Dieu lui a révélé qu'un jour il serait homme. Lui a-t-il dit que ce serait pour le salut des hommes ? C'est autre chose, mais en tout cas, il lui a révélé qu'il serait homme. Et ça serait révolter l'ange que Dieu puisse assumer une condition inférieure à la sienne. Et ce serait ça ce qui aurait vraiment empêché de faire l'acte de foi. Bon, c'est pas tranché théologiquement, mais c'est une très belle opinion qui est reprise et qui ouvre de très belles perspectives. Toujours est-il que, et qui explique l'acharnement que le démon a contre l'homme. Bon. Alors qu'on pourrait dire, eh bien, on ne l'intéresse pas, puisqu'on est bien inférieur à lui, il a autre chose à faire que de nous casser les pieds. Mais non. Mais voilà, comprenez bien que la possibilité du péché de l'ange vient du fait qu'il est une créature, et qu'en plus de ça, de par sa destinée surnaturelle, il est appelé à faire un acte de foi, que tout acte de foi suppose un acte de la volonté. Impliquant de faire adhérer l'intelligence à des choses qu'elle ne voit pas. Alors, comprenez ainsi, et j'en arrête là, que le péché de l'ange, c'est pas de penser « oui, je pourrais être Dieu ». C'est ridicule. Il n'y a qu'un gamin de 2 ans qui peut à la limite le dire sans comprendre ce qu'il dit. Mais personne ne peut penser sincèrement être Dieu, y arriver. Ça n'a pas de sens. Même l'homme moderne. Même si pratiquement, il fait comme si c'était son propre Dieu, mais c'est une autre question. Donc le péché de l'ange, il n'est pas là, parce que ce serait une erreur de l'intelligence grossière. On dit qu'il était absolument intelligent. Ce que l'ange refuse, c'est la dépendance supplémentaire à Dieu occasionnée par cette destinée surnaturelle. Pourquoi ? Parce qu'il faut que l'ange consente, en plus d'être une créature, il faut qu'il consente à dépendre dans son bonheur même de quelque chose d'extérieur à lui-même. La grâce, comme moyen d'arriver à ce but, selon les uns et selon les autres théologiens, le simple fait que cette vision ne soit pas accessible à sa propre intelligence sans justement la lumière de gloire qui proportionne l'intelligence angélique à la connaissance qu'il a de lui-même. Pour que l'intelligence angélique puisse voir Dieu, il faut qu'il soit élevé avant d'aller au ciel par la grâce et après par la lumière de gloire. Cette lumière, elle sent un peu comme ces jumelles qui proportionnent l'intelligence à voir ce qu'elle ne peut pas voir toute seule. Donc le fait que ce bonheur soit en soi surnaturel, et donc inaccessible à l'intelligence angélique à l'état brut, c'est ça qui aurait été le refus de l'ange, de dépendre de Dieu, de Dieu en tant que la vision de Dieu qui serait son bonheur, eh bien, implique cette lumière de gloire dont je vous parle. D'autres théologiens disent, c'est pas tant le fait qu'il refuse la vision béatifique comme vision, mais c'est qu'il refuse le moyen d'y aller, qui est l'initiative de Dieu gratuite, la grâce. Envisager le péché de l'ange par rapport au refus du moyen ou du but, il refuse la même chose, une dépendance supplémentaire à celle qu'il a déjà de par sa condition de créature, faisant qu'il dit non. Ébloui par sa propre perfection, tout en sachant très bien qu'il ne l'a pas de lui-même, mais qu'il l'a reçu. C'est ça, le péché de l'ange, et c'est ça qui fait qu'il devient démon. Et quand il nous est dit « et à cause de ce péché, ils furent exclus pour toujours du paradis », il ne faut pas comprendre qu'ils étaient au paradis. Il faut comprendre qu'il n'y aura pas de deuxième chance. Il n'y aura pas de deuxième chance parce qu'il n'y a aucune raison qui fasse qu'ils veuillent revenir en arrière, tout simplement. Ce n'est pas que Dieu est méchant, c'est qu'il n'y a aucune raison qui fasse qu'ils veuillent revenir en arrière. Parce qu'ils n'ont pas appris, ah, flûte, effectivement, je ne peux pas être Dieu. Ils le savaient très bien qu'ils ne pouvaient pas être Dieu, qu'ils ne deviendraient pas. Ils ne voulaient pas être dépendants d'une façon supplémentaire de Dieu, soit dans l'ordre de la grâce, soit dans l'ordre de la vision. Ils en payent bien sûr les conséquences, mais ce n'est pas pour autant qu'ils regrettent cet orgueil. Ils en déplorent les conséquences, mais ils ne regrettent pas. Ils ont le remords, peut-être, mais pas le regret. Autrement, effectivement, Dieu, probablement par miséricorde, leur proposerait, entre guillemets, une deuxième chance. Et condamné à l'enfer, il faut bien comprendre que l'enfer n'existait pas. Donc l'enfer, c'est eux qui le constituent par cette privation coupable de la vision de Dieu. Je m'arrête là parce que on va être en retard pour cette raquette par